Bonjour, moi c'est Claire et bienvenue sur mon nouveau format de podcast. Alors ici, ça va être une foire aux questions en fonction des questions qui sont posées sur Instagram. On va parler de spiritualité, d'entrepreneuriat, de relations, d'amour, de neuroatypie, d'autisme, etc. C'est des sujets que j'aborde déjà dans mon podcast, mais là l'idée c'est vraiment de vous faire des formats courts et de vous parler de ma vision, de mes expériences, ce que j'ai appris, mes connaissances, etc. Que ce soit vraiment ciblé par rapport à vos questions. Je vous souhaite une très belle écoute. À bientôt. Alors, pour le premier épisode sur cette foire aux questions, j'ai regroupé un petit peu par catégorie. Il y a différentes catégories qui se sont dessinées autour des relations, de manière générale, les relations et la neuroatypie en fait. En lien. Il y a aussi des questions autour de l'entrepreneuriat et des questions autour de la spiritualité, donc je pense que je vais séparer, je vais faire différents audios, différents podcasts, et aujourd'hui je vais aborder plus ce qui est revenu le plus, c'est-à-dire les relations. Alors, en sachant que je vais vraiment vous parler que de ma vision et de mon expérience, et c'est absolument pas une vérité ou quoi. Il y a peut-être même des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, ou je vais juste vous répondre, je ne sais pas. Voilà, donc, pour rappel, pour ceux qui me découvrent, parce que vu que c'est un nouveau format, je sais qu'il peut y avoir des personnes qui me découvrent, du coup, moi je m'appelle Claire et je suis autiste, j'ai été diagnostiquée il y a maintenant de ça 2 ans, plus de 2 ans. Ça passe super vite. Et autiste au potentiel... forcément, du coup, il y a beaucoup d'hypersensibilité. J'ai un soupçon sur le TDAH, voilà, pour l'introduction un petit peu neuroatypique. Mais sinon, au-delà de ça, je partage pas mal de contenu autour de la créativité, de l'entrepreneuriat aussi, des relations, et en fait de mon expérience que j'ai pu... j'ai appris pas mal de leçons sur mon expérience, en fait, autour de la dépression aussi, de l'anxiété, parce que j'ai un trouble anxieux généralisé, le trouble du sommeil, et tout ça, et tout ça, et tout ça. D'ailleurs, cette nuit, j'ai refait une paralysie du sommeil, c'était horrible. Donc voilà, et en fait, je partage du contenu en podcast, en forme de témoignages, de réflexions, ma vision, etc. Et aussi, sur Instagram principalement. J'ai aussi créé des outils pour aider des personnes neuroatypiques. Ça, vous pourrez tout voir dans le lien en description de ce podcast ou sur Instagram. Et j'ai ouvert une tribu qui s'appelle la tribu des super autistes, donc TSA, qui regroupe une quinzaine à peu près, 15-20 personnes qui sont autistes ou en tout cas diagnostiquées ou non, mais en tout cas qui se reconnaissent dans le fonctionnement autistique. Et dans cette tribu, on échange sur énormément de sujets par rapport à la neuroatypie, principalement à l'autisme, mais pas que. Toutes les comorbidités, tout ça, en fait, on réfléchit, on échange. On se questionne par rapport à nos difficultés, nos problématiques qu'on retrouve aussi pour se sentir moins seul, mais également autour de nos potentiels, des grandes questions comme la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Bref, il y a plein de trucs. Et en fait, je propose un programme chaque mois où il y a plein d'activités, notamment de la danse, du yoga. On peut aussi avoir des moments de création, donc cette sorte d'atelier créatif. Libre, on a des moments d'échange, on a des moments d'instant de partage aussi sur nos intérêts spécifiques. Il y a énormément de canaux aussi pour discuter sur plein de sujets. Donc c'est hyper riche et ça se veut en fait comme un espace secure, safe. Alors désolée, j'ai dû stopper l'enregistrement parce qu'en fait il y a mes voisins qui sont en haut qui font beaucoup de bruit. Alors j'espère que ça va pas trop être gênant parce que... C'est le genre en fait de bruit qui, moi, me perturbe énormément et qui peut me foutre énormément sous tension et me faire faire des crises. Donc concrètement, là, j'ai mis vraiment mon casque, mes trucs pour essayer d'être le plus focus possible, mais j'espère juste que ça va pas être trop gênant à l'écoute. En tout cas, voilà, cet espace de la tribu, ça se veut d'être un espace vraiment safe, co-créatif. Et de soutien, de partage et tout ça, et pour parler autour de la neuroatypie. Et ça me dérange. Bon bah voilà, freestyle quoi. Ça me dérange. Donc je vais essayer quand même d'enregistrer, parce que quand j'ai une idée en tête, que j'ai l'énergie, que j'ai trop envie de le faire, je préfère le faire tout de suite. Un petit peu, je suis un petit peu têtue. mais voilà, mais après si ça me met trop en difficulté, j'arrêterai forcément. Parce que ce matin c'était déjà limite de la crise, mais au final je suis sortie dehors et au final ils sont partis toute la journée, là ils viennent de revenir. C'est un voisin qui vient d'emménager, donc voilà, on va faire avec, on va voir. Alors aujourd'hui donc ouais, je vais parler des relations, parce que c'est tellement un sujet en plus que j'ai envie d'aborder de plus en plus et depuis un petit moment avec vous, je savais pas trop comment le faire et je me dis bah tiens, je vais répondre à vos questions, comme ça va peut-être me lancer un petit peu sur le sujet. Alors je vais vous lire les questions. Et puis, y répondre au fur et à mesure. Privilégies-tu les relations amoureuses et amicales avec des personnes autistes ou neuroatypiques ? Alors, la réponse est oui. En effet, de mon côté, je privilégie plutôt les relations donc amicales et amoureuses, qui pour moi sont quand même très importantes dans ma vie, avec des personnes, alors pas forcément autistes, mais de manière générale, neuroa. Alors, après, ça dépend. Ça peut être une personne neurotypique, mais qui va être atypique. En fait, je pense que c'est pas forcément ce sur quoi j'accentue. Là où je privilégie en fait mes relations, c'est, enfin, dans le fonctionnement, c'est plutôt ce que je privilégie de mon côté, c'est plutôt en fait des valeurs qui vont être communes, c'est-à-dire mes valeurs vraiment essentielles pour moi, ben, c'est qu'on partage vraiment ces valeurs-là, qu'on ait une manière de communiquer qui va être assez similaire, ou du moins, même si c'est différent, parce que c'est, par exemple, j'ai des personnes dans mon entourage où la communication est très différente. Mais c'est pas un problème qu'on soit différent. Je pense que l'essentiel là-dedans, c'est qu'en fait, on s'écoute. Et qu'il y ait vraiment une communication, bah, du coup, ce qu'on appelle la communication bienveillante, la communication non-violente, etc. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre et de ses besoins, de ses valeurs, de la manière dont il fonctionne. Pour moi, c'est ça, en fait, qui est hyper important. Et quand on a vraiment envie de relationner avec quelqu'un, quand on a vraiment envie de s'engager avec quelqu'un, bah, je pense que c'est... C'est un peu la base, quoi, du coup. Et qu'au final, au tout début de mon diagnostic, en fait, je me suis dit, en fait, il faut absolument que, par exemple, mon prochain partenaire, ce soit un autiste ou une autiste. c'était hyper limitant, parce que je m'aperçois que c'est pas forcément tant ça, mais c'est des détails, en fait, auxquels je suis sensible. Et qu'en fait, chaque relation déjà est différente. Moi, je pars de ce principe-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai compris qu'une personne neuroatypique, de manière générale, on va avoir une sensibilité assez commune. On va avoir une vision, en général, qui sort de la norme. On va déconstruire les choses, se questionner. Là, je parle vraiment de manière globale. Faut pas en faire une généralité, mais c'est ça que je ressens. Je ressens aussi qu'on peut communiquer beaucoup plus franchement. Je sens qu'on va avoir des valeurs communes, on va avoir des besoins aussi, on va retrouver des difficultés communes. En fait, il y a beaucoup de similitudes de base, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est assez important aujourd'hui, parce que je me sens beaucoup, beaucoup moins épuisée dans mes relations actuellement. Chose qui, avant, et même avec certaines personnes encore actuellement, ça me demande beaucoup plus d'efforts et ça me fatigue énormément, parce que la communication va être très différente et il n'y a pas forcément en fait de réciprocité. Il y a vraiment des incompréhensions, il y a aussi une conception tellement différente et opposée parfois que c'est difficile de rencontrer le monde de l'autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En général, ça foire de l'autre côté, dans le sens où ma conception dérange beaucoup, malgré moi, en fait, alors que c'est pas du tout mal, mauvais, enfin voilà, c'est juste ma façon de voir les choses, mais ça peut déranger, ça, parce que ça bouscule trop les normes, en fait. Et justement, j'en viens là. La conclusion, c'est que je pense que je privilégie plus les personnes qui, pour moi, sont en dehors des normes, sont pas forcément normées. Donc en fait, ça dépend pas forcément du fonctionnement, mais plutôt, en général, c'est quand même, bon, on va dire sensiblement lié, mais pas forcément, c'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, des personnes qui sont pas forcément normées. Pourquoi ? Parce que dans ma façon de voir les choses, mes choix de vie, mes envies, ma conception, ma perception et tout, peut être assez hors norme. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de rentrer en relation avec des personnes qui pensent de la même manière que moi, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est exactement pareil, qu'on est des clones. Moi, j'aime beaucoup aussi échanger avec des personnes qui ont des avis différents, qui voient les choses différemment, qui sont différents. Mais c'est sûr que dans des relations comme ça, amicales et amoureuses, c'est quand même super de partir sur une base commune, quoi. Voilà. Comment vis-tu la différence neuroatypique avec tes relations amoureuses ? Alors, je t'ai demandé du coup des précisions par rapport à cette question que je n'arrivais pas à comprendre. Donc c'est bon, tu m'as donné ton explication. Donc en fait, la question, c'était, je voulais dire dans le cas où tu vis une relation amoureuse avec une personne neurotypique, y a-t-il des aspects particulièrement difficiles, séduction, compréhension, quotidien, communication, etc. ou au contraire, peut-être certains points pouvant être fluides pour toi. Du coup, je vais y répondre. Du coup, ça va peut-être rejoindre un petit peu toutes les réponses aux autres questions, parce que du coup, je les ai faites hier, là, j'ai attendu que tu me précises pour pouvoir y répondre, donc voilà, peut-être ça va se recouper un peu. Donc peut-être que tu auras des réponses dans les autres questions qui vont suivre. Mais moi, j'ai vécu avec des personnes que toutes les personnes avec qui j'ai pu être n'ont pas forcément eu de diagnostic. Donc finalement, je ne peux pas vraiment dire si c'était des neurotypiques ou des neuroatypiques en termes de diagnostic officiel, on va dire ça comme ça. Donc je ne peux pas vraiment savoir. Par contre, je sais là où j'ai eu des difficultés avec certaines personnes et où c'est beaucoup plus fluide avec d'autres personnes, notamment les personnes récentes dans ma vie. Déjà, en termes amical, même si ça n'avait rien à voir avec ta question, j'ai toujours vécu avec des personnes, pas forcément neuroatypiques, mais en tout cas atypiques. Donc souvent un peu en marge, etc. Dans mes relations intimes, ça a été différent. J'ai eu des relations intimes, enfin du coup sentimentales, amoureuses, tout ça, avec des personnes, qui n'étaient pas du tout atypiques. En fait, je reviens sur ça parce que si, en fait là, je visualisais quelques personnes ou qui étaient plutôt typiques, on va dire plus normées, enfin plus dans la norme. Mais j'ai aussi eu des relations. Surtout dans mon adolescence, avec des personnes totalement atypiques, clairement. Par exemple, par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à leur façon de voir les choses, de penser, à leur... c'était des gens très marginaux, en fait. Hein. donc voilà, et puis c'est vers mes 18-19 ans que j'ai commencé à être avec d'autres personnes, et à chaque fois, du coup... C'était pas des personnes forcément atypiques, même pas du tout. C'était des personnes très dans la norme, en fait. Et c'était une période où j'avais besoin aussi de m'inclure dans la norme. Et où même physiquement, ça se voyait. C'est-à-dire que j'étais passée de vêtements très, on va dire, pas dans la norme. Et originaux, très excentriques presque un peu aussi. À du jean basket, quoi, en gros. Et même... au tout début, j'étais plus en mode talons, robe et tout, quoi. Alors que je détestais les talons, j'avais d'ailleurs des petits talons parce que j'arrivais pas à marcher avec. Ça me faisait super mal au dos et tout, enfin c'était horrible. Enfin vraiment, genre j'étais déguisée, quoi. Mais j'ai eu cette plusieurs phases, en fait. J'ai toujours, enfin je fais une parenthèse un peu là-dessus, mais je me suis toujours cherchée, en fait, à tout niveau, même au niveau du style vestimentaire, dans mes relations, etc. Bref, dans mon travail, tout. Et en fait, jeune adulte, on va dire, vers 18-19 ans, j'ai commencé à être en relation avec des personnes qui étaient, on va dire, normales, hein, je mets des gros guillemets, plus dans la norme, mais dans le fonctionnement, ça c'est très, enfin c'est clair. Mais par contre... c'était atypique dans le sens où ils avaient en général en moyenne 15 ans de plus que moi. Donc ça, c'est autre chose. Mais du coup, j'arrivais en fait, il y avait des points positifs dans le sens où c'était des personnes qui étaient assez extraverties, assez sociables, voilà, et ça me permettait de m'inclure très clairement dans des groupes et tout ça. Pourtant, c'était très très difficile pour moi parce que j'ai toujours été anxieuse, dépression, etc. Donc bon, donc voilà. Mais en fait, il y avait un, ce qui a pu y avoir dans mes relations, c'était qu'il y avait un énorme décalage entre ce que je recherche intellectuellement, c'est-à-dire que j'étais avec ces personnes-là aussi parce que je m'entendais très très bien avec eux. On va dire, ouais, intellectuellement parlant, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un écho. Donc on se comprenait de fou, et on m'a toujours trouvée mature, etc. Enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs et tout, parce que j'ai du mal à parler de ça, parce que je veux pas paraître arrogante, prétentieuse ou quoi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est juste les faits, en fait, et oui, je m'entendais très bien avec des personnes qui étaient plus âgées, tout simplement. Et du coup, j'étais très décalée avec les personnes, du coup, qui étaient de mon âge. Je vivais un petit peu de vie. Des personnes qui avaient, du coup, 35-40 ans, qui, parfois, bah, j'ai vécu avec une personne qui avait déjà un enfant, alors que j'avais que 20 ans, par exemple, qui, du coup, bah, ses amis... leurs amies à ces personnes-là, elles avaient genre 40, parfois 45 ans, qui avaient déjà une famille. Enfin, j'étais vraiment dans ces trucs-là. Et en même temps, ben, j'étais étudiante et je faisais la fête de ouf avec des potes qui avaient 20 ans, quoi. Donc c'était assez particulier parce que je vivais vraiment, finalement, mon conflit un peu interne, c'est-à-dire la différence entre ma manière de penser, de fonctionner, qui a été mature quand même très jeune, et mon immaturité, si on peut dire ça comme ça, oui, en fait, très clairement, mon immaturité émotionnelle. Et en fait, ça a beaucoup perturbé au sein du couple, surtout parce que c'était là où ça se révélait le plus, dans l'intimité. En fait, ces personnes ont ressenti un fort décalage entre les conversations qu'ils pouvaient avoir avec moi et ma manière de réagir émotionnellement. C'était totalement opposé. Puis j'ai du coup eu beaucoup de remarques par rapport à ça. On m'a pas beaucoup comprise par rapport à ça. On m'a même dit plusieurs fois que j'étais folle et que il fallait que j'aille dans un hôpital psychiatrique, etc. Enfin, c'était dit d'une manière très insultante pour dans la bouche de cette personne, de ces personnes. C'est arrivé plusieurs fois, un truc qui se répétait parce que je pense que ça les perturber vraiment, ce décalage aussi. Entre autres. Après, il y avait énormément de problèmes relationnels dans, effectivement, la communication. On ne se comprenait pas. C'était très dur de se comprendre, de s'entendre. On a l'impression qu'on était dans deux mondes différents. Ça, c'était dans mes relations intimes, mais ça a été aussi le cas au travail, ça a été le cas dans plein partout, en fait. Toutes les personnes qui fonctionnaient différemment de moi, qui, finalement, ne voyaient pas les choses que moi, je voyais, et vice-versa. Je voyais pas ce qu'eux, ils voyaient. Et c'est l'histoire de ma vie, en fait. C'est pas qu'une histoire, par exemple, dans mes relations amoureuses. Donc j'élargis un petit peu ta question, mais ouais, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Peut-être ça va te parler, du coup. Et après, dans les points ouais, positifs, bah, encore une fois, je pense que c'était plus au niveau social. C'était plus... je pense qu'à l'époque, en tout cas, ça remplissait beaucoup mon besoin de reconnaissance sociale. Un faux besoin d'ailleurs, parce que c'était un besoin complètement imité, enfin, cette sorte de pression sociale que tout le monde peut avoir, et alors qu'au fond je n'ai rien à foutre, en fait. Genre vraiment, enfin, en tout cas c'est une reconnaissance du statut social, c'est-à-dire être reconnu pour, je sais pas, ses compétences, ses diplômes, enfin ces trucs là quoi. Moi ça me parle pas, ou par rapport à la réussite sociale, genre je suis accomplie parce que je gagne tant d'argent quoi, enfin ça me parle pas du tout, en fait. Et j'ai baigné, en fait, dans ces milieux là j'ai été hyper superficielle aussi. Je me suis complètement perdue dans cette norme là en fait, mais je l'ai vécu. Dans le sens où j'ai pu, vivre ce que c'était, enfin, j'ai pu savoir ce que c'était que de vivre incluse, je sais pas si ça se dit, incluse dans cette norme-là. Et ben, ça m'a amené droit au burn-out, en fait, parce que c'était tellement pas moi, et j'étais pas du tout pareil. Donc voilà, je sais pas si ça répond totalement à ta question. J'ai du mal à savoir si je suis un peu hors sujet ou pas. Mais en tout cas, enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je le sais, parce que c'est juste par rapport une question par rapport à ce que j'ai pu vivre. Après, je parle de justement tout ce qui est séduction dans d'autres réponses aux questions. J'ai aussi parlé des problèmes de communication, tout ça. Dans le quotidien, ben ouais, c'était surtout au niveau émotionnel, au niveau de l'empathie. En fait, toute la profondeur et toute l'hypersensibilité qui était absolument pas partagée à l'extérieur. Enfin, on n'avait pas du tout la même sensibilité, quoi, en fait. Et encore une fois, bah, moi, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, etc. Qu'est-ce qui a pu être fluide ? Après, ça m'a apporté, honnêtement, sur, bah, justement, le côté pour être, encore une fois, inclus dans la norme, c'est-à-dire de m'aider, par exemple, sur des... tout ce qui était administratif. Enfin, c'est bête, mais tous les trucs auxquels je galérais, quoi, en fait. Tout ce qui était administratif, tout ce qui était relations... En fait, tous les trucs sur lesquels je galérais, ça m'a aidé. Finalement, c'est des choses... C'est pour ça que moi, je regrette absolument rien de toute mon expérience, même si ça a été souvent difficile. J'ai vécu des choses compliquées, mais j'ai appris de tout ça, en fait. Et ça a fait qui je suis aujourd'hui. J'ai aussi créé tout un personnage, je me suis forcée à être quelqu'un d'autre, mais tout ça, ça m'a aussi montré à quel point j'avais de l'énergie, que j'avais de la puissance, que j'étais capable de construire des trucs. Et finalement, sans ces rencontres, sans avoir eu mon masque social, j'aurais été totalement isolée, en fait. Et j'aurais sombré en dépression de fou. Enfin, j'étais déjà en dépression, mais comment dire, j'aurais été complètement décalée, en fait. Et je pense que tout ça, ça m'a quand même apporté un pas, quand même, dans ce monde-là, dans cette société-là, dans cette culture-là. Enfin, parce que sinon, j'aurais forcément rejeté aussi une partie de mon identité, au final, de moi. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie de trouver un équilibre entre à la fois avoir un pied dans cette société, parce que je ne peux pas la nier totalement. Elle existe, elle est là, elle est réelle, je peux pas la refuser. Et en même temps, de vivre là-dedans, on va dire, dans ce monde-là, avec mon monde à moi, en fait, et de tout ajuster et de faire des rencontres qui, moi, me correspondent beaucoup plus, d'assumer qui je suis. Et du coup, ces dernières années, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui j'étais, et c'est encore... En apprentissage, évidemment, enfin, c'est un truc d'une vie, mais ce que je veux dire, c'est que réellement, j'ai eu une sorte de deuxième naissance, et une vraie naissance, pour le coup, il y a quelques années, et où du coup, je me connais mieux, mes besoins, mes limites, mes valeurs, mes envies, mes désirs, mes choix de vie, mes aspirations, tout, en fait, la façon dont j'ai envie de relationner avec moi-même, avec les autres, enfin, il y a plein de trucs, en fait, qui s'éclaircissent, Ben voilà, du coup je me rends compte qu'effectivement il y a des choses qui me correspondent mieux et qu'aujourd'hui vivre avec quelqu'un qui est pas forcément neurotypique mais en tout cas qui a un fonctionnement beaucoup trop différent du mien, qui a pas la même perception, pas la même vision, pas les mêmes valeurs, qui est hyper normé, ben non ça pourra pas me correspondre puisque moi je suis trop en dehors de la norme en fait. Et je veux bien accepter et tolérer des différences, c'est ok en fait, je suis ok avec ça. Mais je ne peux pas subir non plus des différences, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui ben, c'est trop différent et on ne peut pas s'entendre, et ben, c'est ok. Quoi. Enfin, je ne vais pas me battre pour essayer de forcer la personne à ce qu'elle me comprenne ou à ce qu'elle m'accepte. Enfin voilà, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, et je passe à la suivante. Comment sortir des relations toxiques quand on est neuroatypique ? Alors c'est une très très belle question, très large aussi, donc ça va être difficile pour moi d'y répondre avec précision. Enfin, ça vaudrait vraiment plusieurs podcasts honnêtement, et je pense que je vais d'ailleurs faire, enfin je vous en avais déjà parlé, mais faire un podcast vraiment dédié à ça, entre la relation toxique et la relation saine, parce que honnêtement, j'ai eu beaucoup de révélations cette année, et... Ben voilà, dans mon parcours en tout cas, j'ai vécu ben, du coup ce qu'on appelle des relations toxiques, mais genre toute ma vie, sauf avec une seule personne. Là, je parle vraiment des relations amoureuses, intimes, essentiellement. Pas que, hein, mais ça m'est déjà arrivé aussi au travail, dans la famille, les amis, etc. Hein, mais j'ai quand même vécu que des relations toxiques dans mes relations amoureuses. Et ça change que depuis à peu près 4 ans avec la rencontre d'une personne pour le moment et une autre personne que j'ai rencontrée cette année aussi avec qui c'est ça. Voilà, donc mais du coup il m'a fallu énormément de temps Pourquoi ? Parce que pour moi, quand... Alors, c'est pas forcément, à mon sens, hein, lié à l'autisme ou lié directement à la neuroatypie par rapport aux relations toxiques. Tout le monde peut vivre des relations toxiques, neuroa ou pas. Et en fait, pour moi, c'est, bah, du coup, c'est vraiment principalement lié à l'enfance, à la façon dont on s'est construit, en fait, à nos schémas d'attachement, enfin, nos figures d'attachement, la manière dont on s'est attaché. Si c'était des attachements sécures ou insécures. Après, je vous laisse vous renseigner par rapport à ça, et je vous ai dit, je vous ferai un podcast vraiment dédié par rapport à ça. Mais voilà, de mon côté, j'avais tout simplement des modèles familiaux, des modèles aussi autres que dans la famille, mais bon, la plupart, c'était des représentations, en fait, au sein de ma famille, qui étaient pour moi clairement toxiques et dysfonctionnelles. Alors, ça peut être des grands mots hyper forts, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai vécu, mais pour moi, c'est lié à ça. Quand on a grandi en fait, avec un modèle, un référentiel qui est fait de plein de petits repères qui, en fait, ne sont pas sains, mais qui restent familiers. Pour moi, c'était familier, en fait, c'est ce que j'avais toujours connu, et pour moi, c'était la manière de relationner, en fait. Je n'ai pas appris autre chose, tout simplement, et donc, en fait, finalement... C'est que depuis quelques années, petit à petit, et ça prend beaucoup, que j'ai dû et je dois tout réapprendre. C'est comme si, en fait, au niveau relationnel, j'étais un peu, on va dire, peut-être pas à la maternelle, mais à l'école primaire, quoi. Et bah, là, j'apprends, en fait, à aller au collège, au lycée, faire des études supérieures. J'en suis pas encore là. Mais j'apprends petit à petit, en fait, ce que c'est de relationner de manière saine. J'ai compris aussi que bah, du coup, donc, beaucoup de choses venaient de moi, que forcément j'attirais à moi des situations, genre comme si c'était ma faute, et genre par la magie de la vie on attire des trucs, mais c'est juste logique en fait. On a des schémas qui s'enclenchent, et il y a des personnes avec qui ces schémas-là se répètent et s'emboîtent, on va dire comme ça, qui, du coup, on peut avoir une personne en face qui, en fait, se complète complètement par rapport à nos schémas dysfonctionnels, et lui aussi. Mais pas que, on peut tout à fait tomber sur quelqu'un de sécure. Enfin, en fait, pour moi, c'est plus une question, en fait, de petits repères qu'on a appris, et en fait, qui ont fait aussi des automatismes qui se répètent, donc ce qu'on appelle les schémas répétitifs et tout ça. Et qu'en fait, pour s'en sortir, ça peut être très compliqué. Enfin, moi, personnellement, j'ai été suivie en thérapie pendant... depuis mes 15 ans. Alors, je suis pas venue en thérapie, ils vont dire, j'ai des problèmes relationnels. Enfin, genre, j'avais aucune conscience de tout ça, en fait. J'étais complètement aveuglée par ça. Moi, pour moi, je vivais et c'est tout. Je sentais juste qu'il y avait un mal-être, que j'avais des difficultés, et que, clairement, je vivais des choses terribles, quoi. Donc voilà, et en fait, je pense que à partir du moment où c'est familier pour nous, bah il y a un côté rassurant, il y a un côté confortable, ce qu'on appelle la zone de confort, vous savez, enfin, c'est entre guillemets confortable, c'est dans le sens c'est juste familier, c'est quelque chose qu'on connaît, et du coup ça nous fait moins peur, et pourtant ça nous fait du mal. Ce qu'on connaît ne nous fait pas forcément du bien, et en fait c'est tout un travail pour réapprendre à relationner de manière saine. Et quand je dis saine, c'est genre, moi, quand on me parlait de ça, c'était hyper abstrait, en fait. Je me disais, mais ça veut dire quoi ? Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. Sur quoi je me base ? C'est quoi les petites pièces ? C'est quoi les petits drapeaux, là, les petits points de repère ? C'est quoi, en fait, tout ça ? C'était hyper flou, hyper abstrait et tout. Là, ça commence à prendre une forme, ça commence à prendre de la structure parce que je me fais aider. J'ai des personnes, que ce soit psy, coach, etc., qui m'aident vraiment à travailler là-dessus. Donc, ma manière de relationner, sur mes croyances, sur mes besoins, sur mes valeurs, sur. En fait, on se centre sur moi dans ma thérapie, forcément. C'est vraiment un focus sur soi. Et genre, la manière dont je relationne déjà de moi à moi-même, en fait, ça part tout par de là, pour moi, ça part déjà de soi. Et donc, j'ai pris le temps de m'observer et de voir, en fait, la manière dont je relationnais avec moi-même. Et de voir à quel point c'était toxique, en fait. La façon dont je me traitais, la façon dont je me parlais, la façon dont mes comportements, en fait, mes réactions, toute seule, par exemple... la façon de réguler mes émotions, la façon de, je sais pas, les drogues, l'alcool, manger comme ça de manière compulsive, avoir des achats compulsifs, des trucs comme ça, bref, enfin, des trucs qui en fait venaient combler des manques, une faille, des trucs à l'intérieur de moi qui étaient comme troués en fait, et qui avaient besoin de se remplir, mais en fait, plus j'essayais de remplir de cette manière, plus le fossé se creusait, clairement. Et c'est en fait quand j'ai commencé à... Comment dire ? Enfin, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plein de facteurs. Il y a une clé, il y a une porte d'entrée. Enfin non, du coup, c'est tellement de choses, en fait. C'est un assemblage de plein de trucs. C'est plein de trucs qui se déverrouillent. Il y a plein de trucs auxquels j'ai pas du tout conscience. Enfin, il y a tout un travail qui se fait aussi dans les rêves. Enfin, je sais pas, la nuit. Il y a un travail qui se fait énormément dans l'inconscient. On se rend pas compte et tout. Mais en tout cas, quand on fait la démarche comme ça de vouloir changer, de mieux se connaître... Pour moi, ça a été la clé principale, enfin la base en fait, le truc genre ok, je vais apprendre à me connaître, à me découvrir. Et pourtant, c'était tellement difficile et ça a mis des années. Pourquoi ? Parce que il fallait apprendre. Et c'est encore le cas. Je suis encore en apprentissage et ce sera comme ça toute ma vie. Mais apprendre à cerner ce que j'aimais, tout simplement, tout bêtement. Qu'est-ce que j'aime en fait ? Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? Quelles sont mes valeurs en fait, où est-ce que je mets de l'importance dans les choses, qui sont des priorités qui ne sont pas, comment je relationne, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, enfin en fait plein de questions comme ça et tout. Donc j'ai été aidée pour ça parce que franchement c'était hyper, comme je vous ai dit, un terrain obscur, enfin genre aucune idée de tout ça, mais genre zéro, genre j'étais en mode mais je sais même pas en fait. Donc ça s'apprend petit à petit. Moi, le coaching m'a beaucoup aidée, par exemple, parce que ça vient en fait un petit peu poser les bonnes questions au bon endroit, je trouve. Et personnellement, ça a soulevé des trucs assez ouf. Mais voilà, quand on se rend compte en fait de la relation qu'on entretient avec soi, c'est là où on peut s'observer en fait à l'extérieur aussi et de se dire ah ok, en fait toute la manière dont je suis avec moi, en fait, c'est exactement la manière dont je suis avec les autres. Et ça a été pour moi une grosse révélation, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ok, je vivais plein de relations toxiques, mais que moi-même j'avais des comportements en fait qu'on qualifie de toxiques. Je suis pas quelqu'un de toxique, c'est pour moi, enfin du coup vous avez dû entendre, mais c'est pas la personne qui est toxique, genre ok cette personne c'est un monstre, c'est toxique et tout, non, c'est on a des comportements qui sont dysfonctionnels et qui demandent un apprentissage pour que ça devienne quelque chose de plus sain, plus respectueux pour soi et pour l'autre en fait. Et ça s'apprend, c'est hyper long. Enfin, moi, je suis passée par tellement de phases. Je pense que vous n'avez pas idée de ce que j'ai pu vivre, justement. Et ça, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast pour détailler un peu plus, sans rentrer trop dans les détails non plus de mon intimité, mais voilà. Et en fait, pour répondre à cette question, déjà, bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, du coup, voilà, c'était pour répondre à la question. Donc, je reprenais comment sortir des relations toxiques quand on est neuroa. Donc, comme je t'ai dit, c'est pas forcément une question d'être neuroa ou pas. Tout le monde peut vivre des relations toxiques et oui, on peut s'en sortir. Et qu'il y a plein de manières de le faire. Et que je pense que le premier pas, c'est d'apprendre à se connaître soi et de se faire aider, honnêtement, si tu vois que toute seule, tu n'y arrives pas. Parce qu'en fait, quand on est dans un flou abstrait, on ne sait même pas par quel bout prendre, genre à quoi ça ressemble, c'est quoi ces repères, genre enfin moi j'étais complètement perdue en fait, c'était un trou noir quoi. Donc il faut qu'il y ait des gens qui nous apprennent, vraiment, enfin c'est ça en fait, on est à l'école quoi en fait. Et voilà, donc si ça peut t'aider, ben voilà, essaye de t'entourer, de voir quelqu'un ou d'en parler autour de toi. Si il y a une personne, au moins une personne dans ton entourage avec qui tu as une relation saine, essaie de noter un petit peu les différences entre ta relation saine et qu'est-ce qui pour toi te fait sentir bien avec cette personne et avec une autre où il y a des problèmes. Où est-ce que tu identifies un petit peu ces problèmes-là, si déjà ça peut être une première piste, on va dire. Parce que en fait, quand on qualifie une relation toxique d'une relation saine, une relation saine, c'est de se sentir bien, de se sentir en sécurité. On ne peut pas se sécuriser dans une relation qui est insécure. C'est peine perdue, c'est impossible. sauf si l'autre personne, enfin si vous deux, en fait, vous êtes dans cette démarche de vous sécuriser et de trouver des outils, des clés, des trucs, s'il y a vraiment ce truc, en fait. Mais si ça fait que d'être réactionnel, en fait, des deux côtés, et de tout le temps, en fait, appuyer sur vos insécurités, bah non, en fait, à terme, ça joue sur la santé mentale et c'est extrêmement drainant et bah, c'est pas bon pour soi. C'est là où on qualifie ça de toxique pour soi, en fait. Voilà. J'espère que mon retour, ma vision a pu t'éclaircir. Comment sortir des relations toxiques quand on est neuroatypique ? Alors, je vais essayer de te répondre. Donc, encore une fois, ce sera par rapport à mon expérience, hein, du coup, ma vérité. Mais en fait, la réponse, je pense, à cette question pour moi, c'est je ne sais pas. Je pense que, en fait, c'est par rapport, tu sais, justement, tous ces codes de séduction. Moi, j'ai appris, justement, avec le diagnostic et tout ça, en fait, ça a été comme une révélation pour moi parce qu'on m'a déjà dit, que ce soit des amis, enfin bref, d'autres personnes qui m'ont dit que j'envoyais des signaux de drague. Genre, il y a même un ami qui avait dit à un gars, fais attention, n'espère pas trop par rapport à Claire, hein, elle envoie des signaux, mais elle se rend pas trop compte, enfin... Un truc comme ça, quoi. Et du coup, effectivement, pour moi, j'envoie des signaux, mais du coup, il a fallu que je les apprenne, ces signaux, en fait, là, ces dernières années, quand j'ai eu mon diag et tout, où je me suis dit, mais oh, putain, mais c'est ça, en fait. Alors, du coup, si ça peut t'aider par rapport à ces codes-là, mais j'ai compris tardivement, du coup, que tout ce qui est relatif, en fait, à partir du moment, apparemment, mais moi je m'en fous, hein, j'en ai rien à foutre des codes, du coup c'est pas pour autant que je vais les suivre, a priori c'est quand tu es quelqu'un de très spontané, que tu es jovial, comme ça, enthousiaste, parce que moi je suis quelqu'un, voilà, c'est ça en fait, je suis quelqu'un qui est très enthousiaste. Et surtout quand je suis stimulée, que je rencontre des nouvelles personnes, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Après, bon, c'est à revoir aussi dans des contextes qu'il y a des personnes, enfin, je peux avoir beaucoup d'anxiété, enfin bon, bref. En tout cas, ça a été comme ça à une époque, et pendant, du coup, on va dire, toute mon adolescence, jeune adulte et tout. Et j'ai toujours été très enthousiaste, toujours très aussi tactile, en fait, et aussi très dans l'affection, la tendresse, mais que ce soit avec mes amis, etc. J'ai vécu toute ma vie avec des ambiguïtés. C'est toujours encore le cas et c'est toujours très très compliqué pour moi en fait de voir d'avoir des repères et de voir en fait je suis tellement, on va dire, libre. Je sais pas comment dire ça, mais décomplexée. Enfin, je sais pas si c'est les termes. En tout cas, juste en fait en étant moi-même, juste, je suis franche, je suis honnête, je suis intense, comme tu as pu le dire dans ta question aussi. Et c'est juste moi, en fait. Et c'est vrai que par rapport aux... Bah, donc j'ai appris ça plus tard, aux représentations des codes de séduction, de drague et tout, et ben en fait, les personnes qui passent du temps, par exemple, avec l'autre, genre, moi j'acceptais des verres, je savais pas que c'était de la drague, en fait, c'était en mode, ben ouais, je vais boire un verre avec toi, puis voilà, quoi, enfin... Et on voit, quoi. Et on voit comment ça se passe et tout. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose et que je suis stimulée par quelqu'un, quelque chose, bah, du coup, j'y vais. Et je me pose pas trop de questions. En tout cas, à cette époque-là, c'était comme ça. Et je me mets à côté de la personne et du coup, je m'intéresse à la personne. Et apparemment, c'est aussi un code, ça. Le fait, en tout cas, ce que j'ai appris, hein, c'est peut-être pas une généralité, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu les tendances, quoi. C'est-à-dire, quand tu t'intéresses à quelqu'un, où vraiment tu lui poses des questions, t'étais là, tu t'intéresses, ouais, à ces sujets. Enfin, moi, j'ai toujours été comme ça, en fait, de m'intéresser à l'autre. J'ai toujours posé beaucoup de questions aussi, c'était aussi une forme pour moi d'être plus à l'aise avec la personne, pour pas que l'attention soit trop portée sur moi, donc c'était un peu une stratégie aussi. Donc voilà, je pose plein de questions, puis je m'intéresse, et puis ben, je montre beaucoup d'entrain et d'enthousiasme, et j'ai toujours été sincère là-dedans. Et aussi, ben, je peux être tactile, je suis très souriante. Voilà, c'est tous des petits trucs comme ça, et en fait, qui peuvent être pris pour de la drague, en fait. Et en fait, apparemment, quand tu acceptes de boire un verre avec un... Par exemple, on va dire dans un truc de couple hétéro, basique, machin, bon, un mec qui t'invite, voilà, pour aller boire un verre, bah du coup, ça signifie en fait que c'est un truc, enfin voilà, c'est un truc de drague, quoi. Mais c'est bête, hein. Mais enfin, c'est quelque chose que j'avais pas intégré, que j'avais pas conscientisé, que, enfin voilà. Et c'est vrai que ça m'a amenée dans des situations assez cocasses parfois, dans des, bah finalement pas toujours dans des trucs très cool, en fait aussi. Bah parce que du coup il y a une certaine naïveté sociale, ça on en parle aussi dans l'autisme, et notamment l'autisme qu'on dit au féminin, c'est intériorisé, mais souvent les femmes, mais pas que, hein. Y a aussi des hommes, et enfin voilà, finalement peu importe le genre, c'est juste que il y a des personnes adultes qui autistes qui on est plus sujet à la naïveté sociale en fait, et où du coup on voit pas tous ces codes là forcément, on peut bah, effectivement être assez enthousiaste, etc. Et pas capter certains trucs, et que ce soit par de soi-même, parce que moi, du coup, c'était surtout, enfin, pas, sur, pas que, mais c'était, ça venait de moi, les signaux que je renvoyais, mais aussi la personne, en fait. Genre, comment, enfin, si moi, on me disait pas les choses explicitement, comment je pouvais savoir que la personne, je lui plaisais des trucs comme ça, quoi. Et du coup, je me retrouvais des fois dans des situations où la personne, bah, elle veut m'embrasser, ou je sais pas, ou enfin, qu'il y a un espèce de rapprochement physique, ou je sens un truc. En fait, je sens dans l'énergie qu'il y a quelque chose. Et là, je me dis, mais il y a un truc qui est différent, quoi, qui a changé. Je sais pas, il y a... Moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Donc d'ailleurs, ça peut à la fois m'aider. Et en même temps, quand tu comprends pas ce que tu ressens, ce qui a été le cas toute ma vie. C'est-à-dire de ressentir toujours des choses, de pas forcément réussir à mettre des mots dessus, de pas réussir à capter qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la traduction de ça. Ça fait comme mes émotions, enfin tout ça. Et de même pas savoir ce que c'est vraiment, en fait, d'être pas très reliée à tout ça, à son corps et tout. Ben du coup, ouais, j'ai toujours été vraiment perdue, j'ai toujours vécu des trucs ambigus, des trucs entre deux. Voilà, donc si ça peut te parler par rapport à mon expérience déjà. Donc voilà, si ça peut t'aider par rapport à ça. Après, moi, ce que je peux peut-être te conseiller ou quoi, vu que tu me posais la question, comment draguer, tout ça, machin, ben, tu peux avoir des documentations ou des choses... dans la tribu, parce que je sais que t'es dans la tribu, tu peux demander aussi aux autres personnes, mais sinon tu peux, en fait, tout ce qui est habilité sociale, apprendre ces codes-là, en fait, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, moi, je suis moins pour cette façon de faire. Je sais qu'il faut s'adapter aussi, j'ai l'impression de m'être adaptée de toute façon toute ma vie, hein, c'est pas le sujet, mais j'ai envie d'être moi-même, en fait, d'être vraie et d'attirer des personnes bah, qui me ressemblent en fait et qui me comprennent. Mais du coup, pour moi, j'accentue plus maintenant sur la communication. Et davantage aussi de moi-même être explicite. C'est-à-dire que dès que je ressens quelque chose, bah, je le verbalise en fait. Donc je suis plus tendance aujourd'hui à verbaliser les choses. Et en fait, c'est vrai que dans le début d'une relation, ben, ça va peut-être pas forcément convenir à tout le monde non plus. Mais du coup, tu peux en fait choisir aussi de ne pas forcément vivre cette phase de séduction, ou en tout cas de la vivre, mais à partir du moment où c'est clair dès le départ, c'est-à-dire que tu connais l'intention de l'autre dès le départ. Moi, aujourd'hui, dans toute nouvelle relation, je cadre dans le sens où je demande en fait c'est quoi ton intention, pourquoi est-ce que tu as envie de me rencontrer, est-ce que tu as une arrière-pensée, entre guillemets, est-ce que tu veux plus ou est-ce que c'est plus amical, etc. Enfin, j'essaie de redéfinir, en fait, le truc pour ne pas trop me perdre et que ce soit trop flou et que ça devienne trop chelou et tout ça. Et bah, moi aussi, je me questionne sur mon intention. Et si on voit que bah, on se plaît, par exemple, tous les deux, qu'on a une intention commune, bon, bah, là, on peut se laisser aller. Par exemple, si tous les feux sont au vert, on va dire que t'es dans un bon contexte, que c'est une personne qui te plaît, qui est disponible, qui a envie de... enfin qui sont à la même longueur d'onde que toi, je sais pas, tu vois, mais bah tu peux te dire vas-y, je vais tenter. Dans ces cas-là, bah là tu peux vous pouvez activer cette phase de séduction, de drague, parce qu'en fait là j'ai compris aussi que j'ai toujours été dans la séduction en fait aussi d'une certaine manière, parce qu'en fait tous ces signaux que j'envoyais, alors il y a des trucs qui étaient complètement inconscients et qui n'étaient pas pour moi de la séduction, ça c'est vrai, mais il y a aussi une autre réalité dans d'autres contextes, d'autres personnes, d'autres trucs où j'ai été dans la séduction, mais sans m'en rendre compte, en fait. J'ai ce côté séductrice, on va dire, pas dans le but, genre, j'ai envie de consommer, enfin, vous voyez le truc, mais j'aime, en fait, ce côté de... J'aime ce truc de romantisme, de séduction, en fait, j'ai capté, et j'ai eu du mal à me l'assumer, mais j'ai besoin de ça, aussi, de cette séduction-là, et c'est pas... Il y a rien de mauvais, il y a rien de mal, et tout, c'est juste, je pense, qu'il faut resserrer les choses au départ, pour se sentir à l'aise, de pouvoir le faire et que tout soit ok en fait, et que ce soit pas trop un truc voilà, flou, ambigu et tout. Mais c'est cool, parce que même quelqu'un avec qui tu es depuis, je sais pas, des années et tout, mais tu peux toujours avoir de la séduction en fait. Et moi j'aime beaucoup ça, j'aime bien qu'il y ait une forme de séduction, enfin j'aime beaucoup ça, c'est peut-être un peu exagéré j'avoue, mais bah, c'est quelque chose qui me plaît aussi en fait. De se séduire, de se plaire et de continuer à, on va dire, alimenter un petit peu tout ça. Donc, et là, pour le coup, moi, ça passe vraiment par le corps, par les énergies, par les sensations. Je dirais le regard plus ou moins parce que je suis pas très à l'aise à regarder dans les yeux. Mais ça peut arriver, mais pas très longtemps. Mais il y a quelque chose comme ça, mais c'est plus vraiment dans ouais, l'intention et l'énergie, le ressenti et tout, encore une fois. Mais du coup, voilà. Donc, je sais pas si ça va te parler, mais j'espère que bah, ça va t'aider un petit peu à éclaircir ou à te questionner, ou peut-être ça va te donner un petit peu plein d'autres idées, etc. Voilà. Comment faire de sa neuroatypie une force lorsque l'on est avec des neurotypiques ? C'est une question super intéressante aussi. Et hyper positive, parce qu'en fait, on a tendance à regarder un petit peu les côtés négatifs de la neuroatypie. Enfin, en tout cas, mettre ça quand même pas mal en avant, parce que du coup, ça ressort beaucoup en ce moment, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui consultent, qui font des diagnos et tout ça. En général, ça soulève aussi parce qu'il y a de la souffrance, du décalage et tout. Donc, ça soulève beaucoup les problèmes, les difficultés, mais on parle rarement, enfin, on en parle quand même, mais moins, je trouve, c'est moins mis en avant, parler de force, en fait, d'effort. Alors, le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu une question ici qui est assez, on va dire, sociétale, dans le sens où il y a... vu qu'on est dans un monde de neurotypiques, enfin, en tout cas, en plus, il y a une certaine norme, etc., bah, c'est vrai que, du coup, on va être minoritaire. Et qu'en fait, pour montrer, enfin, pour que les personnes s'adaptent à nous aussi, et pour se montrer au monde et qu'on soit accepté, etc., il y a un travail qui est quand même assez long de sensibilisation, et puis aussi de bah, que les choses évoluent, que ce soit dans le monde du travail, dans plein de mondes, en fait, dans bah, quasiment en fait, tous les domaines, et là où il y a aussi des interactions. Et c'est vrai que bah, par rapport à la neuroatypie, il y a énormément de choses qui pourraient apporter aux personnes donc dites neurotypiques, tellement de choses en fait. Et je t'invite peut-être à lister justement un peu bah, quelles sont les choses que tu trouves belles chez toi ou chez d'autres neuroatypiques, des caractéristiques en fait aussi qui peuvent apporter aux autres. Moi je sais que j'ai identifié par exemple, une de mes forces ça va être de communiquer, ma façon de communiquer. Parce qu'en fait, je remarque bien que ma façon de communiquer n'est pas la même que des personnes donc, neurotypiques avec qui ça peut être très difficile de se comprendre. Mais je pense qu'on a beaucoup à leur apprendre sur la manière de communiquer. On a une communication qui va être très franche, en tout cas très honnête. Après, je sais qu'il y en a qui se cachent aussi derrière des... en fait, qui ont tellement peur de blesser, enfin, qui sont tellement pris des taquets, des murs, que ben, on n'ose plus s'exprimer. Et ça, c'est le cas de beaucoup de neuroatypiques qui sont mutiques ou qui ont du mal à s'exprimer. Ça a été mon cas. Ça peut paraître bizarre. Moi qui fais des podcasts depuis plusieurs années, j'ai été mutique pendant très longtemps. C'est une réalité, quoi. Je l'ai vécu, ça, vraiment profondément, toute mon adolescence et jusqu'à mes... de parler, de m'exprimer, ouais, jusqu'à au moins mes 25-26 ans, quoi. Et ça, bah c'est une souffrance, en fait, alors qu'on a tellement de choses à exprimer, mais que ce soit de manière explicite, donc d'être plus explicite dans notre communication, de verbaliser les choses, de dire les choses avec honnêteté, de pas être dans le mensonge, d'avoir une vraie franchise, en fait. L'empathie, la compassion, et aussi, je dirais, dans notre manière de voir les choses, d'apporter d'autres solutions alternatives, notre perception. Je dirais aussi la manière de communiquer dans ça peut être, enfin, créativement parlant, ça peut être dans l'art, mais ça peut être dans une autre forme de création, mais la façon de résoudre des problèmes. Il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles on peut être hyper, hyper apporté, en tout cas, aux autres, être utile, on va dire ça comme ça. En tout cas, bah voilà, montrer aussi qu'on a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de force, que ce soit dans le monde du travail, je pense à ça, mais voilà, dans les relations aussi, ben, dans ton entourage, en fait. Maintenant, pour moi, les relations, parce que c'est ça aussi la base, c'est faut que ça aille dans les deux sens, parce que pour l'instant, pour moi, je trouve, en tout cas, c'est pas vrai partout, hein. Faut pas prendre pour généralité, mais je constate quand même qu'il y a encore une césure entre neurotypique et neuroatypique, comme si, en fait, oui, c'est des fonctionnements différents, mais comme si on devait les séparer, genre, il y a un camp et il y a l'autre, il y a un monde et il y a l'autre. C'est pas, pour moi, c'est pas, ça devrait pas être séparé, en fait. Ça devrait pas, ça devrait fonctionner ensemble. Et là, pour moi, on est encore un peu loin de tout ça. Je pars peut-être loin dans des trucs très généraux et tout, mais je pense qu'on est un petit peu loin de tout ça. Que j'ai l'impression que les neuroatypiques, du coup, comme on l'entend, s'ouvrent, se montrent de plus en plus. Et ont, je pense, pas tous encore une fois, mais ont pour la plupart un vrai besoin d'entrer en lien avec des personnes qui ont aussi des besoins de liens sociaux et tout ça. Ça n'enlève pas. Ils ont juste une manière différente d'être au monde. Et ils ont tout à fait autant le droit que les autres. Mais quand on... Bah on du coup, on veut s'adapter aussi à un monde qui est majoritairement neurotypique. Mais il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Parce qu'en fait, comment évoluer dans un climat où on ne nous accepte pas vraiment tel que nous sommes, où l'adaptation se fait un peu à sens unique, où la volonté d'accepter l'autre, de communiquer avec l'autre peut être juste dans un sens. Il faut qu'il y ait une ouverture des deux côtés. Mais si voilà, si t'as des relations, en tout cas à côté de toi, avec des personnes neurotypiques et tout, assure-toi en tout cas, ouais, que ce soit dans un domaine, dans un univers où ça soit vraiment sécure et où tu peux t'exprimer pleinement et où tu peux inspirer aussi, parce que ouais, on est des êtres hypersensibles, en tout cas avec une certaine sensibilité, avec une certaine vision des choses. On peut apporter beaucoup de choses, en fait, beaucoup de changements aussi. Et je sais que dans cette société, on bouscule beaucoup parce qu'on est en dehors des normes, parce qu'on pense autrement. Mais c'est une force, ça, pour moi. Pour moi, c'est une force. Et je pense qu'il ne faut pas se minimiser. Il faut prendre sa place. À mon sens, juste en étant nous-mêmes, en fait, avec toutes ces forces-là là, que j'ai un peu listées, comme ça, un petit peu... Il y aurait plein d'autres trucs à dire, hein, mais... Puis après, c'est aussi propre à chacun. Mais... Vraiment, je vois un potentiel de fou, en fait. Et je vois que ça change, je vois que les choses, elles changent par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on peut vraiment leur apporter, même sur l'autisme aussi, dans le travail, notre capacité à voir les petites failles, les incohérences, tous les petits détails, notre manière, notre regard, c'est hyper singulier, en fait, et c'est beau, quoi. Et notre mémoire aussi sur certaines choses. Le côté, je sais pas, pour certaines personnes qui vont avoir une spiritualité, on va dire, je sais pas, des choses qui sont beaucoup plus... des dimensions qui sont beaucoup plus ouvertes, alors que c'est pas du tout le cas pour d'autres personnes. De vivre les choses intensément. On peut apprendre énormément des neuroatypiques, très clairement. Voilà. Bah en fait, ça peut être bien aussi que tu fasses la liste de justement qu'est-ce qui t'apporte les neurotypiques, même si j'aime pas trop les termes comme ça de neurotypique, neuroatypique, mais pour bien se comprendre, en fait. Mais il faut voir ça comme quelque chose qui peut fonctionner ensemble et qui peut évoluer ensemble, plutôt que de le voir de manière séparée, en tout cas. Mais c'est, je pense qu'on a tous des défauts, entre guillemets, enfin des qualités, des défauts, des forces et puis des faiblesses, et c'est ok, quoi. Mais justement, on peut se soutenir aussi là-dedans. Et je pense qu'il y a des personnes neurotypiques qui viennent compenser aussi certaines difficultés, notamment sociales, par exemple. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre des petites étoiles, donner ton avis en commentaire, partager autour de toi, histoire que ce podcast soit reconnu. Merci beaucoup pour ton soutien. À bientôt.